Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour la sainteté au quotidien. Nicole, à ce micro, je suis heureuse de vous retrouver pour partager avec vous notre découverte des 10 paroles, des 10 commandements, à travers donc cette série d'émissions. Nous voulons vivre ce carême, vivre la sainteté, vivre ce carême avec la parole de Dieu. Et nous allons nous armer nous aussi sur cette loi d'amour que Dieu donne à son peuple et que Jésus accomplit parfaitement dans sa chair. Et nous allons voir de quelle manière, ensemble, tout au long de ce carême, si vous le voulez bien. Nous avons vu ensemble déjà l'image du désert, l'importance du désert, aussi bien lorsque nous évoquons la Pâque, puisque le but du carême, c'est la Pâque, donc c'est la libération, c'est le salut. Pour les Juifs, dans la tradition et dans l'Ancien Testament, c'est la première alliance qui va être faite au Mont Sinaï. Et c'est donc la sortie d'Égypte. 400 ans, Israël se retrouve esclave. Et voilà que par Moïse, un chemin va s'ouvrir dans le désert, à travers la mer. Et Moïse conduira, par la force de Dieu, conduira son peuple en terre promise. Ensuite, nous voyons également que pour Jésus, ce sera 40 jours et 40 nuits dans le désert où il sera tenté. Et face à toutes ces tentations, il sortira vainqueur. De la même manière qu'Israël sera tenté dans le désert, pendant cette marche dans le désert vers la terre promise. Alors, arrivons maintenant, si vous le voulez bien, aux 10 paroles. D'abord, je voudrais revenir sur justement les 10 paroles. En parlant en hébreu, on va le dire aussi bien au féminin que au masculin. On peut dire Aseret Adiberot, donc ça c'est le féminin, et Aseret Adevarim, ce sera le masculin. Les commandements, en fait, nous dit la tradition juive, ordonnent l'ordre de la vie et la transmission de la vie. Je vais vous parler de cette ordonnance, de la vie, vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Donc, on ne trouve pas les 10 commandements, vous le savez. Le mot hébreu dit les 10 paroles. Le mot parole en hébreu se dit davar, mais qui va voir ses dérivés en dibour, dibera ou diber, celui qui parle, diber, diberot. Hein. Est-ce que tu parles hébreu? Donc, on va prononcer comme ça avec le verbe diber. Toute personne qui connaît un petit peu l'hébreu, donc, sait que les 10 paroles, on va le dire au féminin, Aseret Adiberot. Donc, c'est celui donc du féminin pluriel, et celui du masculin pluriel, c'est im en hébreu. Ot, c'est toujours féminin, le pluriel féminin, et im, le pluriel masculin. Par exemple, les enfants, les fils, on va dire banim pour les garçons et banot pour les filles. Et au singulier, ça va être ben. Donc, adiberot, ce féminin pluriel, ce n'est pas la forme qui est le plus utilisée dans la Bible, mais elle est utilisée dans le Talmud. La Bible emploie le mot parole au masculin pluriel, devarim, aseret adevarim, et les 10 paroles, ils sont donc les aseret adevarim. Le mot davar, qui d'ailleurs peut signifier aussi bien parole que même la chose. Et donc, de temps en temps masculin, de temps en temps de genre féminin. Grammaticalement, ce n'est pas un cas exceptionnel. Par exemple, il y a le mot « amour » en français. On va dire « les amours » au pluriel, qui peuvent être de genre masculin ou même féminin. En revanche, ce qui est surprenant, c'est la différence qui est surprenante. C'est cette différence selon qu'il s'agit de la Bible ou du Talmud. Le masculin dans la Bible, le féminin dans le Talmud. Alors, comment on peut expliquer cette divergence? Alors là, ce n'est pas un fruit de mon imagination. Je vais laisser le rabbin Marc-Alain Waknin en parler. Écoutez bien. Le statut de la parole passe du masculin au féminin en passant par la loi écrite et la loi orale. On a affaire à deux formes différentes de l'être. Ce passage de l'être au masculin à l'être au féminin est essentiel pour la pensée juive, en particulier pour entendre le sens des dix paroles. Entrer dans l'écoute des dix paroles, c'est articuler la forme du masculin avec celle du féminin. Et c'est ainsi qu'elles s'inscrivent dans l'ordre de la vie, de la fécondité, de la généalogie. Pas de langage sans la différence sexuelle. Marc-Alain Wagnin précise donc qu'il y a justement tout cela vient de la capacité même de parler qui vient de la différence sexuelle, parce qu'il n'y a pas de langage sans la différence sexuelle. Et pourrions-nous dire, et pourrions-nous ajouter à l'inverse, pas de sens pour les dix paroles sans cette différence. Alors les deux traditions écrites et orales forment un tout, leur jeu mutuel ou, si vous préférez, leur dialectique sont féconds et riches de sens. Rappelons que la première tradition est celle du texte écrit de la Bible. Donc, ce livre, la Bible qui veut dire bibliothèque, hein, biblios en hébreu, les cinq premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, c'est donc ce qui constitue la Torah, c'est les cinq premiers livres que nous avons en commun, d'ailleurs avec les Juifs, c'est donc le Pentateuch. Mais quand les Juifs parlent de la Torah, cela peut désigner par extension toute la Bible hébraïque, hein, même les écrits des prophètes, etc. Mais c'est là qu'on va trouver par deux fois la liste des dix commandements. C'est dans la Torah, dans les cinq premiers livres, ou les dix paroles, plus précisément. On va trouver au chapitre de l'Exode, chapitre 20, et puis également dans le Deutéronome, au chapitre 5. Au sens large, tous les commentaires et les enseignements de toutes les générations pour expliquer la loi écrite constituent la loi orale, nous dit Marc-Alain Wagnin. Une partie de ces enseignements a été mise par écrit entre le 2e et 5e siècle de notre ère, et c'est le Talmud. L'importance du Talmud dans le judaïsme rappelle que le peuple juif est le peuple non du livre, mais de l'interprétation du livre. La lecture talmudique de la Bible l'a fait littéralement exploser sous l'effet des interprétations qui ont été données au cours de l'histoire. Alors d'ailleurs, à ce sujet, j'ouvre une parenthèse, si vous avez déjà eu un Talmud dans les mains, c'est assez intéressant. Vous avez le texte, la parole de Dieu au centre, et puis vous avez tout autour, comme des rayons d'étoiles, des rayons du soleil, plein de commentaires de différents rabbis, et c'est extraordinaire parce que on pourrait penser que l'un contredit l'autre, mais en fait tout l'ensemble forme toujours un tout. Pour nos frères juifs, lire c'est dénouer, c'est délier, c'est ouvrir à des sens nouveaux, c'est appréhender aussi les dynamiques inédites, nous dit d'une manière très belle Marc-Alain Wagnin. Donc, vous savez, il y a les fameux petits recueils qui s'appellent les midrash, les midrashim, en fait, au pluriel, qui sont donc ceux qui se transmettent de génération en génération par tradition orale. Et ces récits ne sont pas faux. Ils confèrent à la communauté qui les raconte de génération en génération une identité narrative, une identité qui est forgée par les récits qu'on ne cesse de raconter. Et Marc-Alain Wagnin fait une très belle... donne une très belle image. Il dit que le Midrash, donc les dix commandements, a été donné à Moïse sur la montagne du Sinaï. Alors, les commentateurs, parce que ça, c'est l'esprit juif de, pour étudier la parole, c'est de poser des questions. Pourquoi sur une montagne? Tu vois, tous les détails vont être examinés à la loupe, si vous voulez. Et le Midrash prétend que c'était une petite montagne, en tout cas pas très haute, car la Torah, dit-il, avait besoin d'humilité. Le mot Torah, il y a plusieurs sens dans le mot Torah. Il y a le mot enseignement, il y a le mot parent, il y a le mot également. Il y a un mot qui vient de la race, les parents, parce que les parents, ça vient de la racine ara, qui veut dire être enceinte ou en état de grossesse. Voyez. Et à ce sujet, quand je vous parlerai du quatrième commandement, je vous dirai aussi ce qu'a dit l'acteur comédien chrétien Roberto Benigni, en faisant son commentaire sur les dix paroles magnifiques sur le quatrième commandement. Il dit justement, le quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère, c'est le commandement de la vie. En fait, c'est le commandement, tu honoreras la vie. Alors revenons, parenthèse terminée. Or, c'est vrai que la femme enceinte a une petite montagne sur le ventre. Sa fécondité devient visible à travers cette montagne, vous voyez. Donc la Torah a été donnée sur la montagne parce qu'elle relève foncièrement du féminin. Elle est liée à la fécondité, c'est pour ça qu'on la trouvera aussi, on trouvera les dix paroles dites au féminin dans le Talmud, parce qu'elle est liée à la grossesse. il y a une manière d'exister, une fécondité. Ces 10 paroles appellent à l'enfantement, à engendrer un être nouveau, à être vraiment fils de Dieu, fils d'Israël. C'est pour ça qu'on va également, dire les 10 paroles au féminin et au singulier. Au féminin et au masculin. Alors c'est très très intéressant. Bon, il y aura encore plein de choses à dire, mais on va revenir donc à nos 10 commandements. Avant juste de vous faire une petite introduction, on reviendra demain sur le premier commandement. Vous voyez, on prend notre temps, mais c'est vraiment très riche. Je vais vous proposer les 10 commandements, mais non pas la formule catéchétique. Vous savez, un seul Dieu, tu adoreras, tu aimeras parfaitement. Celle-ci, on la verra aussi au cours de nos émissions. Mais je voudrais aujourd'hui, vous lire celle du livre de l'Exode. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni les bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Alors je vais vous laisser sur cette question sur laquelle nous reviendrons demain. Maître, que dois-je faire pour posséder, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle? Eh bien, au jeune homme qui lui pose cette question, Jésus va répondre d'abord en invoquant la nécessité de reconnaître Dieu comme le seul bon, comme le bien par excellence et comme la source de tout bien. Puis Jésus lui déclare, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et de citer aussi à son interlocuteur tous les préceptes qui concernent l'amour du prochain. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père, ta mère. Jésus va résumer enfin ses commandements d'une manière positive. Toutes ces négations, tu ne feras, tu ne tueras, tu ne commettras pas. Il va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez la porte qui s'ouvre. À cette première réponse, une seconde vient s'ajouter. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor aux cieux. Puis viens et suis-moi. Alors bien sûr, cette seconde réponse ne va pas annuler la première. La suite de Jésus comprend bien sûr l'accomplissement des commandements. La loi n'est pas abolie, mais l'homme est invité à la retrouver en la personne de son maître, qui bien sûr, c'est lui qui accomplit parfaitement cette écriture. C'est lui qui est l'écriture incarné, réalisé complètement, porté à son achèvement. Alors, dans les 3 évangiles synoptiques, de Matthieu, Marc et Luc, l'appel de Jésus qui est adressé au jeune homme riche de le suivre dans l'obéissance du disciple et dans l'observance des préceptes, elle est rapprochée de l'appel à la pauvreté et à la chasteté. Ce serait intéressant de faire un petit tour dans ces évangiles, de voir vraiment le parallèle. Donc vous voyez que les conseils évangéliques sont indissociables des commandements. On peut dire que dans toute sa prédication, Jésus va reformuler ses 10 commandements d'une manière encore plus détaillée, très midrashique, puisqu'il va utiliser beaucoup de paraboles. Donc c'est très intéressant, voyez. Quand Jésus reprend ses 10 commandements, il manifeste la force de l'Esprit à l'œuvre dans leurs lettres. Il prêche la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, aussi bien que celle des païens. Il va déployer toutes les exigences des commandements. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras pas. Et puis il va beaucoup plus loin. Les protestants disent que Jésus, dans les Béatitudes, lorsqu'il reprend ses 10 commandements, c'est la loi de Moïse, le serment sur la montagne, c'est la loi de Moïse au carré, c'est-à-dire puissance décuplée. Vous voyez ? Quel est le plus grand commandement de la loi ? Bien, Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur, Shema Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et voilà, dit-il, le plus grand est le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à ces deux commandements va se rattacher toute la loi ainsi que les prophètes. Donc le décalogue, c'est plus joli de dire décalogue, donc c'est le mot grec qui signifie les 10 paroles, doit être interprété vraiment à la lumière de ce double et unique commandement de la charité, qui est la plénitude de la loi. Alors ces 10 paroles, on l'a vu, c'est dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ que finalement leur plein sens va nous être révélé. C'est pour ça que nous allons l'aborder, vous allez voir, avec plein de passages de l'Évangile. Et le décalogue, il se comprend dans ce contexte de l'Exode, qui est le grand événement, bien sûr, libérateur de Dieu au centre de l'Ancienne Alliance, quand il est libère de Pharaon, de l'esclavage de l'Égypte. Et ils sont formulés comme des préceptes, il y a des préceptes négatifs, on l'avait vu ça dans les précédentes émissions, des interdictions, mais il y a aussi des commandements positifs. Donc, les 10 paroles, elles indiquent les conditions d'une vie libérée de l'esclavage du péché. Le décalogue est vraiment un chemin de vie. D'ailleurs, on retrouve dans le Deutéronome, si tu aimes ton Dieu, si tu marches dans ses voies, si tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Voilà mes auditeurs, pour aujourd'hui, je vous laisse à cette interrogation. Donc, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Donc, et Jésus va renvoyer aux 10 paroles avec cette clé de lecture fondamentale, ce dénominateur commun, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, qui est fondamental pour découvrir tous les commandements, tous les différents commandements que nous allons parcourir en ces jours. Il me reste à vous souhaiter une bonne et sainte continuation sur nos ondes et dans votre vie, dans votre quotidien. Je vous laisse avec un chant, non pas du schéma Israël, je vais vous proposer le chant en italien composé par Marco Frisina sur les Lodi all'Altissimo de François d'Assise, où justement François répond bien. On peut dire que c'est le jeune homme riche de la parabole, sauf que François va réécrire ce passage d'évangile parce que lui, de riche, il va se faire pauvre, il va tout donner, il va accomplir même le deuxième commandement que lui donne Jésus. Si tu veux être parfait, va et vends tout aux pauvres et suis-moi, et c'est ce qu'il fera. Mais c'est vrai qu'il reconnaît Dieu comme seul bon. Et François va dans un moment de communion merveilleuse et profonde, va tout centré sur Jésus, sur Dieu, en le déclarant « Tu es le seul saint, tu es le très haut, tu es humilité, tu es douceur, tu es le seul bon, sans toi rien n'est bon, tu es tout en tous, tu es trine et tu es un, tu es notre consolation, tu es notre perfection, tu es notre douce miséricorde. » Alors on écoute ce chant et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission. Thank you.
Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es très haut, tu es roi tout-puissant, toi Père Saint, roi du ciel et de la terre.
Toi seul et saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles.
Tu es un en trois, Seigneur Dieu, bien total. Tu es le bien, tout bien, souverain bien, Seigneur Dieu vivant et vrai.
Toi seul et saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles.
Tu es charité, amour, tu es sagesse, tu es humilité, notre suffisance, tu es beauté, tu es douceur.
Toi seul et saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles.
Tu es joie et liesse, tu es justice et tempérance, tu es toute richesse, tu es patience, tu es sécurité, tu es repos.
Toi seul et saint,
tu es protection, tu es gardien et défenseur, tu es force, tu es rafraîchissement, tu es notre espérance, tu es notre foi.
Toi seul et saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles.
Tu es notre grande douceur, tu es notre vie éternelle. Grand et admirable Seigneur, Dieu tout-puissant, miséricordieux Sauveur.
Toi seul et